Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un privilège pour nous d'être parmi vous encore ce dimanche. On a la chance de l'avoir, j'ai la chance d'avoir ma belle famille à Saint-Marcellin. Donc, c'est ce qui fait que nous avons le privilège de nous voir régulièrement en ce moment. Et nous sommes venus en force. Hein, toute la famille est là. Voilà. Donc, c'est rare. Il faut en profiter. Voilà. Donc, ce moment de prédication là, s'inscrit complètement dans la prolongation du culte. On n'aurait pas pu rêver une meilleure présidence, une meilleure introduction. Il y a un meilleur moment de scène pour ce message, pour lequel je vous invite à ouvrir vos bibles pour inverser dans l'épître aux Thessaloniciens. Donc Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique, la première, chapitre 5, et le verset 18. Et vous allez dire, mais on continue le moment de louange, et c'est une très bonne chose. Le culte est un tout. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et le verset 18, on pourrait lire aussi le verset 17. Les chrétiens se demandent souvent quelle est la volonté de Dieu. Hein. C'est quand on va à Saint-Lunaire et qu'on demande aux gens quels ateliers ils aimeraient avoir le soir, l'atelier sur la recherche de la volonté de Dieu est celui qui attire beaucoup de personnes, régulièrement tous les ans. Et bien là justement, on va voir un des aspects de ce que Dieu veut pour nous. Alors, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. C'est ce que nous avons fait dans la première partie du culte. Hein. Remerciez Dieu. Mais là, il nous est dit de rendre grâce en toutes circonstances. Et on voit que c'est quelque chose qui ne doit pas être qu'occasionnel. Hein. Déjà, ce passage-là nous permet de nous en rendre compte. Mais on peut le lire dans d'autres passages, dans Colossiens, chapitre 2, les versets 6 et 7. Ne cherchez pas, je vais vous le lire. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Alors on pense à ça au repas, hein. Je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais quand on se réunit à l'occasion du repas, bah on a l'habitude de remercier le Seigneur avant, mais je crois que c'est encore plus que ça. Éphésiens chapitre 5 verset 20, le même apôtre Paul écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on a l'impression, on voit bien ici que ça doit être une attitude permanente. Rendez continuellement grâce à Dieu. Et l'apôtre Paul, toujours le même, hein, lorsqu'on regarde ses prières d'un peu plus près, ses lettres d'un peu plus près, on se rend compte que quasiment toutes, dans toutes, il exprime sa reconnaissance à Dieu. Je vous lis quelques extraits. Donc, la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu pour la grâce divine qu'il vous a accordée dans la communion avec Jésus-Christ. Je le remercie pour toutes les richesses et les bénédictions dont il vous a comblé. » L'Épître aux Éphésiens, « Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. » L'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 3, « Je pense souvent à vous, et je suis reconnaissant à Dieu de ce que vous vous souveniez de moi. » Et enfin, Colossiens, chapitre 1, les versets 3 et 4, nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Donc on voit Paul remercier pour tous les chrétiens, les Corinthiens, Colossiens, chrétiens de Thessalonique, etc. Il n'y a qu'une épître qui fera exception, vous la connaissez, c'est l'épître aux Galates, où là il y avait des choses à régler. Mais sinon, à chaque fois, hein, Paul commence ses lettres par des remerciements, il rend grâce. Et pourtant, on sait que ces églises n'étaient pas forcément faciles. Je ne sais pas qui aurait aimé vivre à l'église, dans l'église de Corinthe, hein, avec tous les problèmes qu'on y voyait, mais Paul rend grâce. Et c'est bon de voir ça. Le mot rendre grâce, vous le connaissez, c'est le mot grec eucharistia, qui a donné eucharistie, la scène. Hein, c'est le moment de la scène que nous avons vécu tout à l'heure. Le moment central du culte, et nous avons raison, où nous rendons grâce à Dieu. Alors, comment faire pour avoir cette attitude? Cette attitude qui nous permet de rendre grâce continuellement à Dieu. Continuellement à Dieu. Parce que louer Dieu, adorer Dieu quand ça va bien, c'est jouable. Hein, on se dit, ok, ça c'est possible. Mais quand on a des soucis dans la vie, quand tout n'est pas rose, quand on a des soucis au travail, des soucis dans la famille, des soucis dans sa santé, c'est pas toujours évident de louer Dieu, de louer continuellement Dieu, en tout cas le louer avec vérité, sincérité. Alors on a heureusement des exemples dans l'Écriture, hein, dont l'exemple d'un professionnel de la louange. Alors dommage Jean-Marc n'est pas là, il est cloué au fond du lit, sinon j'avais prévu des choses pour lui. C'est dommage, il écoutera. Mais on a des professionnels de la louange dans la Bible. Il y en a un, hein, qui a écrit 12 psaumes qui s'appelait Asaph. Alors Asaph était un lévite qui a vécu du temps du roi David. Et on sait que le roi David l'a fait chef d'une des trois confréries de chantres et de musiciens qui célébraient et qui louaient l'Éternel. Et on sait que sa vie ne devait pas être facile tous les jours, parce qu'à un moment donné, Asaph, notre professionnel de la louange, n'avait plus le cœur à la louange. Et il y a un psaume qui nous raconte ça, qui le raconte très bien, et c'est le psaume 73, qui a été écrit par Asaph, donc vous pourrez le relire cette semaine, hein. Et dans ce psaume 73, il raconte honnêtement, hein, vraiment, ce qui s'est passé dans son cœur. Lui, l'expert en louange, hein, qui se coupe en quatre pour le service de Dieu, qui doit gérer des problèmes compliqués, on a l'impression, hein, parfois du matin au soir, il commence à regarder ce qu'il se passe autour de lui, et il commence à envier les gens, à la limite, qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, regarde, mais eux, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas malades, ils sont riches, tout va bien. Et moi, tout ce qui me tombe dessus, ce n'est pas possible. Voilà. Donc notre professionnel de la louange est devenu momentanément un expert en plainte devant Dieu. Et on voit notre Asaph écœuré, révolté. Et vous savez, il y a eu un moment donné où il y a eu un déclic. Si vous connaissez ce psaume, hein, à un moment donné, il nous raconte ce qui s'est passé, et là on peut lire la fin donc, du psaume 73, où il a ce déclic, et où il reconnaît qu'il a été stupide dans cette attitude. Mais il a eu un déclic. Hein. Donc ça nous est raconté à la fin. Voilà. À partir du verset 16, psaume 73, verset 16. Psaume 73, verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Etc. etc. Dernier verset. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc ce qui a été le déclic chez Asaph, hein, qui a sérieusement déprimé, c'était le moment donné où il a dit « jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu ». En quelque sorte, quand il a pénétré dans la présence de Dieu. Et quand il a vu les choses avec l'optique de Dieu. C'est-à-dire quand il a vu en fait le sort final des méchants qu'il avait devant les yeux et qu'il enviait. Donc il a vu les choses comme Dieu les voyait. Il a changé d'optique. Un autre exemple de personne, hein, qui a vécu des choses difficiles, on a dit tout à l'heure que l'apôtre Paul commençait toutes ses épîtres quasiment en étant reconnaissant, en remerciant Dieu. Et dans l'épître aux Philippiens, où il le dit aussi, hein, « Je pense souvent et je suis reconnaissant à Dieu de ce que vous vous souveniez de moi », on sait que quand Paul a écrit cette lettre, il était en prison, il était à la maison d'arrêt, et il attendait en fait sa condamnation. Et on imagine que les prisons romaines n'étaient pas les plus confortables qui soient. Et il avait, Paul, des raisons de se plaindre, certainement. Et on voit Paul qui est reconnaissant. Alors ce qui est intéressant de voir, et c'est un parallèle que je fais avec Asaph, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il est reconnaissant. Qu'est-ce qui fait qu'il remercie le Seigneur, et on le voit, il nous le dit donc dans l'Épître aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Paul se réjouit de ce qu'il peut annoncer l'Évangile à ses geôliers. Il voit les choses dans l'optique de Dieu. Dieu l'a placé là. Oui, ce n'est pas un lieu agréable. Oui, la prison, ça doit être épouvantable. Mais à cet endroit-là, je peux toucher des gens que je n'aurais jamais touchés ailleurs. Et je loue Dieu pour cela. Et je remercie Dieu pour cela. C'est-à-dire que Paul pense au destin éternel de ses geôliers et pas à ses conditions matérielles. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit aussi dans ce passage. De la même façon que Asaph, à la fin, a pensé au destin éternel de ceux qui l'enviaient. Et il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il n'était plus digne d'être envié. Et on sait que Paul a eu d'autres soucis dans la vie, des problèmes de santé sérieux. Certains commentateurs pensent que c'était une dégénérescence maculaire, un problème aux yeux assez sérieux. Et trois fois, il a demandé Dieu de le guérir. Et on sait ce que le Seigneur a répondu. « Ma grâce te suffit. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce qu'a dit Dieu. Donc ce sont des paroles très fortes, qui n'est pas toujours évident d'entendre. Mais on a ici donc un premier axe pour pouvoir rendre grâce, pour pouvoir louer notre Dieu. Bien sûr, la première condition, et on l'a dit avant dans le culte, et c'est très bien, il faut être au bénéfice de cette grâce de Dieu. Avoir reconnu son salut, avoir accepté son pardon, accepté sa seigneurie, s'être repenti et avoir la vie nouvelle en Christ. Dieu a accompli des choses extraordinaires pour nous, et on le dit chaque dimanche, et on a raison de le dire, et on a raison de louer le Seigneur pour cela. On a un exemple dans la parole de Dieu, d'une visite, d'un repas, disons, chez Simon le pharisien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, qui se voit dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Là non plus, ce n'est pas la peine d'y aller. Vous pourrez lire ce passage-là tranquillement chez vous. Et donc, c'est une histoire assez intéressante. C'est Simon le pharisien donc, qui invite Jésus à manger. Bon, ce n'était pas forcément par sympathie, parce qu'on s'en rend compte dans la suite du passage. On a vu la dernière fois que les pharisiens en voulaient... très fortement à Jésus. Il y a beaucoup eu d'opposition entre Jésus et les pharisiens. Donc Simon le pharisien invite Jésus à manger, mais pendant qu'ils sont à table, il y a une femme qui entre avec du parfum et qui va essuyer les pieds de Jésus avec le parfum et ses cheveux. Et on sait que le pharisien, pendant ce temps-là, va avoir des pensées, il va dire « Mais le pauvre Jésus, s'il savait qui est-ce qui lui fait ça ?» Il doit pas être prophète. Et en fait, là, Jésus va prendre la parole et va clore le chapitre assez vite. Il va lui faire prendre conscience qu'en fait, celui qui a un problème, c'est lui, c'est le pharisien. Parce que le pharisien ne mesure pas, lui, la grandeur de sa faute, la grandeur de son péché. Il se croit juste, alors qu'en plus, il a offensé Jésus. Il ne lui a pas offert d'eau pour se laver les pieds. À l'époque, c'était comme si vous accueilliez quelqu'un chez vous et vous ne lui proposez même pas de retirer son manteau. Donc c'est de cet ordre-là, c'est assez fort. Donc je ne sais pas si vous accueillez les gens chez vous, vous dites non, garde ton manteau, tu vas bientôt partir. Enfin bon, je ne sais pas. Enfin, il paraît qu'en Normandie, il y en a qui sont comme ça, il faut se méfier. Bref, donc il n'a pas été très très sympa avec Jésus. Et il se croit juste en fait. Puis il dit... la pauvre Jésus avec la femme qui vient. Et en fait, Jésus va lui montrer que c'est exactement le contraire. Lui se croit juste alors qu'il a offensé Jésus, alors que la femme, elle, est consciente de la grandeur de sa faute. Elle est consciente de la grandeur de son péché. Et Jésus conclut la chose en disant « Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ses péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup... » parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est une question d'amour. Quand on prend conscience de ce que Jésus fait pour nous, de ce qu'il a fait dans son salut, de la noirceur de notre péché, de comment on peut être mauvais en pensée, en action, dans tout, qu'il n'y a rien de bon en nous et que le Seigneur, malgré ce que nous sommes, vient nous sortir de notre boue. Quand on prend conscience de ça, mais on ne peut être que reconnaissant. Est-ce que c'est ce qu'a fait cette femme ? Et ce que nous montre ce passage que j'aime beaucoup, c'est nous montrer que notre degré d'adoration est proportionnel à la perception qu'on a de la grâce de Dieu. Plus on est conscient du pardon de Dieu, plus naturellement on va louer Dieu. Par contre, si on se sent impeccable, juste, top, etc., bah, Dieu ne peut rien faire pour nous. Voilà. Donc là, prendre conscience de la grâce de Dieu, prendre conscience de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et ce qu'il continue à faire, mais ça, on va y revenir. Deuxième point important, la louange ne va pas sans obéissance. Ça, c'est un point important aussi. On le voit dans plusieurs passages hein, dans l'Écriture. Moi, il y a un passage que j'avais bien aimé, c'est dans les livres des Chroniques, que Jean-Marc n'aime pas, c'est pour ça que j'avais choisi des passages exprès, mais j'espère qu'il entendra. Donc, premier livre des Chroniques, chapitre 13, il y a l'histoire du transport de l'Arche de l'Alliance. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. Donc, l'Arche de l'Alliance, le peuple avait envie de la ramener à Jérusalem parce qu'elle était en territoire ennemi. Et c'était, bon, tout le monde était enthousiaste de ça, on va ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Donc le peuple était dans la joie, ils ont fait une vraie fête, quoi. Les gens chantaient, dansaient, ils étaient heureux, ils avaient envie de louer Dieu. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Ben, y a un homme qui s'appelait Ouza, hein, qui a l'Arche de l'Alliance, à un moment donné, elle a bougé. Enfin, et lui, il a voulu la retenir de ses mains, et Dieu à ce moment-là l'a puni hein, sur place, et il est mort sur place. Parce qu'on ne touchait pas l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance se transportait dans des conditions bien définies, qui étaient bien, bien claires dans la loi, et c'était une désobéissance flagrante à la loi de Dieu. Et il a été puni sur place à cause de ça. Alors, on imagine, ça a dû casser l'ambiance. On imagine. Mais Dieu, je crois, montre que c'est sérieux. Et on ne plaisante pas avec la loi de Dieu. Quand clairement Dieu, dans nos vies, montre quelque chose, il faut obéir. Et vous vous rappelez aussi cette histoire hein, où Dieu a dit ça, hein, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis après tu viendras, j'ai envie de dire, louer le Seigneur à l'église. Donc la louange ne va pas sans obéissance. Donc ça, c'est un autre point. Et enfin, un dernier point, mais qui va reprendre un peu les points précédents. Et moi, c'est ce qui m'a fait du bien lorsque j'ai pris conscience de ça. Parce que jusqu'ici, bon, ce sont des choses, je crois, qu'on connaît. Et il y a un troisième point, c'est le fait que le mot adoration qu'on retrouve dans la Bible, bon, c'est le grec proskuneo, donc ça, vous en parlerez à votre cheval, comme je dis à mes élèves. Autrement dit, c'est pas important. Il est employé 60 fois dans l'Écriture, mais ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est que ce mot-là veut dire, en fait, s'approcher pour embrasser. C'est ça l'idée qui est derrière. D'accord ? Adorer Dieu, le mot veut dire s'approcher pour embrasser. Et donc, cette semaine, c'était la Saint-Valentin, si ma mémoire est bonne. Donc, on voit bien hein, cette idée hein, d'amour, d'embrasser, etc., son conjoint. Et ben derrière cette idée de louange, hein, d'adoration, s'approcher pour embrasser, on voit que c'est une attitude globale, une attitude d'amour, et c'est quelque chose qui ne se construit pas en un jour. Okay ? Le couple, c'est toute une vie hein, qu'on se découvre l'un l'autre. Eh bien, il y a l'idée ici d'une communion permanente avec Dieu, d'être au bénéfice de la grâce, non seulement au moment où on a dit oui, où on a décidé à partir de ce jour-là, je suis le Seigneur, je lui appartiens. Mais il y a une grâce, comment dire, il y a le fait de pouvoir bénéficier de sa grâce jour après jour. Dieu est vivant. Il est disponible 24 heures sur 24. Et il a pour nous des réserves de grâce permanentes. Et tant que nous ne serons pas au ciel, nous lutterons, enfin, je ne sais pas pour vous, mais tous les jours contre le péché. Et nous aurons besoin tous les jours de la grâce de Dieu. Chaque jour, presque tout est à refaire. Presque, hein, j'ai bien dit. Et on sait que chaque jour, ça va apporter son lot de bonnes choses, mais aussi son lot de tentations, de soucis, de frustrations. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, donc non seulement le jour de notre conversion, mais chaque jour de notre vie. Et ce qui est bon à savoir, c'est que Dieu est bon. Et comme je vous le dis, il a des réserves de grâce pour chacun d'entre nous, et c'est très dommage de s'en priver. Alors je ne vous dis pas qu'il faut faire le mal pour voir la grâce de Dieu, bien sûr, hein, en aucun cas, mais qu'on a besoin de Dieu chaque jour, et que c'est dommage de pas passer du temps avec lui, plus que ce que nous le faisons bien souvent. Enfin, je parle pour moi. Pour vous donner une image de ça, j'ai fait un voyage à Nancy il y a quelques semaines, c'est un déplacement professionnel. Donc le Havre-Nancy, c'était 7 heures de train, un changement à Paris, et puis bon, j'étais un peu juste, donc j'ai fait le changement à pied entre gare Saint-Lazare et gare de l'Est. Bref, j'ai bien couru, j'étais bien couvert, bien chargé, donc bien transpiré. Et j'étais tout content, je dis, je vais arriver à l'hôtel le soir, je vais me prendre une bonne douche, ça va être super. Et bon, j'arrive très bien dans la chambre, il était tard. Le soir, ok, la salle de bain impeccable. Et j'arrive dans la salle de bain et pas de savon. Quand même, l'hôtel, il est bien. Il doit forcément y avoir du savon quelque part. C'est la première fois que je vois un hôtel où il n'y a pas de savon. Alors, je regarde partout, je vais dans la chambre, je fouille les tiroirs, je retourne tout, je regarde l'armoire, ils ont quand même mis ça quelque part. Et puis vraiment, mais je dis, mais c'est pas possible. Et j'étais sur le point de, dire tant pis, je vais me coucher comme ça. Et puis j'étais sur le point plutôt d'appeler la réception. Je leur dis quand même, écoutez, bon. Et il y a une petite voix qui me dit, t'auras l'air ridicule. Bon, alors je retourne dans la salle de bain. Et je me dis, il y a forcément un coin que je n'ai pas regardé. Je regarde bien. Et je vois le rideau de douche, vous savez, qui était à côté de la baignoire. Puis il dit, mais t'as pas poussé le rideau de douche? Non, mais... Alors je pousse le rideau de douche et je vois un énorme distributeur. Savon, shampoing, machin, tout ça. Alors, c'est une petite anecdote. Hein. Donc ça, c'est un truc qui ne serait pas arrivé à une femme, je crois. C'est plutôt les hommes, ça. Mais... ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'avec Dieu, c'est un peu pareil. On n'a qu'à pousser le rideau, il est là. Et on préfère se débrouiller tout seul, et on préfère gérer nos trucs tout seul. Paul dit à l'église de Corinthe, chapitre 5, verset 10, premier épître, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Je crois que c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Et je vous cite un pasteur canadien qui écrit ça dans un livre qu'il a écrit récemment. Aujourd'hui, des centaines de chrétiens croient que la grâce de Dieu peut les délivrer de leurs péchés, mais ils n'ont aucun espoir pour leur couple en détresse, alors ils demandent le divorce. D'autres adhèrent sans réserve à la doctrine de la grâce, mais éprouvent chaque jour des sentiments de culpabilité pour leurs péchés passés. Plusieurs milliers remercient Dieu chaque dimanche pour son pardon, mais ne veulent pas renoncer à leur rancune contre un frère ou une sœur de l'Église. Je crois que c'est ça, se priver de la grâce de Dieu. Théoriquement, on a tout compris, mais ça se vit. Pour prendre conscience de ce qu'est la grâce de Dieu, pleinement, il faut la vivre. La vivre tous les jours, et la vivre comment ? La vivre en étant des canaux de la grâce divine, c'est-à-dire en la distribuant aussi de autour de nous. L'auteur que je vous ai cité précédemment dit « Ce n'est qu'en la manifestant autour de nous, à nos conjoints, à nos enfants, nos collègues de travail, nos amis, que nous l'expérimenterons complètement nous-mêmes. » Et là, j'ai beaucoup à apprendre. On pense par exemple à nos paroles, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens, qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui les écoutent. C'est Éphésiens chapitre 4, verset 29, pour ceux qui notent. Imaginez comment votre vie peut changer si vous vivez cela dans votre famille, au travail, dans l'église, dans le couple, d'abord. Aucun époux n'est parfait, aucune épouse n'est parfaite. On a deux options, enfin sûrement plus, mais je caricature. Faire une checklist de tout ce qui ne va pas. Ok ? Alors là, je crois que le couple, il ne va pas tenir longtemps. Si vous commencez à dire, chérie, ce qui ne va pas, les tubes de dentifrice, il faut les reboucher, enfin, oui, ce genre de truc. C'est, vous voyez les options comme ça. Je ne dis pas que de temps en temps, ce n'est pas bien de mettre les choses au point. Mais voilà, si on se focalise sur ce qui ne va pas, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ou on choisit, on fait le choix de remercier Dieu pour les qualités de l'autre, qu'on a tendance à oublier facilement. On connaît le chant « Compte les bienfaits de Dieu », donc s'axer sur ce que Dieu fait pour nous, mais il y a aussi tout ce que les autres font pour nous, notre conjoint fait pour nous. Je crois que notre nature est tellement mauvaise que par nature, on voit ce qui ne va pas. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que ça marche. Je vois ce qui ne va pas. Je suis un professionnel. J'ai du mal à voir ce qui va bien. Donc, je choisis de remercier Dieu pour les sacrifices que mon conjoint a fait pour moi, pour tout ce qu'elle a pu faire, pour ce qu'elle est. Hein. Donc c'est un choix. Au travail, la vie n'est pas toujours facile. Hein. Il me semble que la pression augmente quand je fais un bilan sur ce qui s'est, enfin sur mes conditions, sur les comment dire, les problèmes qu'on a à gérer sur 10 ans. Il me semble que les choses évoluent. Ça va pas. Les choses ne vont pas en se simplifiant, pour tout dire. Donc c'est pas toujours facile au travail de vivre l'Évangile. Et alors on a plusieurs options. Hein. Soit on râle, on fait comme les autres, on se plaint tout le temps, etc. Soit on regarde, on vit les choses avec, comment dire, en tentant d'avoir le même regard que Dieu, avec les yeux de la grâce de Dieu. Notre monde a besoin de la grâce, besoin de la grâce. Alors c'est une attitude à avoir, hein, une attitude à avoir le positif des choses. Et donc il y a un truc qui est proposé, que j'ai lu, c'était à la fin de chaque journée, de faire le point de tout ce qui a bien été. Et c'est quelque chose d'important, de savoir, dans chaque jour, dire, voilà, Seigneur, je te remercie pour toutes ces choses-là qui se sont passées aujourd'hui, telle rencontre que j'ai faite, telle chose que j'ai pu gérer, etc. Il y a des chercheurs américains, donc de l'université de Davis, qui ont fait une enquête très intéressante, ce ne sont pas des chrétiens, hein. Donc, c'était des gens qui avaient des problèmes de stress, sommeil, ils faisaient une recherche là-dessus. Donc, comme ils font les choses assez bien, ils ont pris des groupes de plusieurs centaines de personnes, 3 groupes, et ils les ont suivis donc, pendant plusieurs mois. Et à un groupe, ils avaient dit, bon, bah, vous faites comme d'habitude, le soir, vous couchez, et puis vous, voilà. On leur avait donné un placebo, enfin un médicament qui ne sert à rien, c'était pour qu'ils ne se rendent compte de rien. Le deuxième groupe, on leur a dit, on vous demande une chose, c'est qu'à la fin de chaque journée, vous notez tout ce qui n'a pas été. Voilà, tout ce qui n'a pas été dans votre vie, dans la journée, vous le notez. Et le troisième groupe, ils ont dit, bah voilà, à la fin de chaque journée, vous notez tout ce qui a bien été. Voilà. Et quand ils ont, à la fin de l'étude, ils ont remarqué que pour le groupe qui notait ce qui avait bien été, il y avait un changement significatif de l'humeur, des troubles de sommeil, du stress, enfin, incroyable. Ok ? Je crois que Dieu sait ce qui est bon pour nous. D'accord. C'est bon de prendre le temps par jour, de faire l'inventaire de toutes ces grâces qu'il a manifestées à notre égard pendant la journée écoulée. Voici quelques vérités sur la grâce. La grâce édifie au lieu de démolir. La grâce donne ce qui n'est pas mérité. La grâce a un prix. La grâce donne sans rien espérer en retour. La grâce pense aux autres et non à elle. La grâce se concentre sur ce qui est important et non sur les détails insignifiants. La grâce regarde ce que peuvent devenir les autres et pas sur ce qu'ils n'ont ou n'ont pas. La grâce aide les autres à ressembler de plus en plus à Christ. Elle ne condamne pas les autres, elle ne désespère pas à leur sujet. Elle met l'accent sur la miséricorde. C'est ce que j'ai trouvé dans un ouvrage et je trouvais ça intéressant de remettre la grâce dans une perspective pratique, à vivre tous les jours. Et là, je trouve que nous, chrétiens, on peut vraiment faire beaucoup de choses dans notre monde, parce qu'il me semble que jamais notre pauvre monde a eu autant besoin de grâce. J'ai encore lu une petite histoire vraie, hein, qui est intéressante. C'est l'histoire d'un... Donc c'est un chrétien, en fait, hein, mais qui est... comment dire, qui a du mal à... Qui a un handicap, qui a du mal à parler. On ne comprend pas bien quand il parle. Et donc, il a un emploi de caissier dans un supermarché. Et alors, le chef, il faisait le tour de son équipe, et il disait, bah, vous comprenez, les gens, quand ils viennent dans un supermarché, le seul contact humain qu'ils ont, c'est à la caisse, c'est le moment où ils font leurs courses. Donc c'est important de leur dire un petit mot encourageant, etc. etc. Alors lui, vous imaginez, il n'arrivait pas à parler. Mais vraiment, il avait envie de bien faire. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré chez lui le soir et il est allé sur des sites internet où il y avait plein de paroles encourageantes. Il a imprimé ça, il a découpé toutes les phrases. Donc il en avait plus de 400, je pense que c'était un travail de fou. Hein. Et il est venu après au boulot avec ses petits trucs. Et à chaque fois que quelqu'un venait au supermarché, il déposait sa petite phrase dans le caddie des gens. Vous voyez un peu ? Et à la fin de la journée, ce qu'ils ont remarqué, ou même enfin, au bout de plusieurs jours, c'est que les gens, ils venaient à sa caisse. Ils ne voulaient plus venir aux autres caisses. Il dit non, nous... Alors les autres, ils disaient, mais attendez, la caisse ici, il n'y a personne. Il dit non, mais nous, on veut venir à la caisse de Joe, là. On veut venir là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est une histoire vraie, donc je trouvais ça intéressant. Notre attitude peut faire beaucoup de choses. Hein. On est dans un monde qui est dur, je crois qu'en plus, nous avons la source infinie de la grâce. Le Seigneur, après, comme on l'a lu tout à l'heure, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc Dieu est prêt à nous ouvrir tout. Il n'y a qu'à demander, il n'y a qu'à pousser le rideau. Alors vous dites, mais on s'éloigne de la louange, là on parlait de ça au début, mais on va y revenir au contraire, et ça va être ma conclusion, je vous lis deux versets. Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Alors, je ne pense pas que ce soit une chose facile, c'est parce que ce n'est pas naturel. Mais je pense que comme toutes ces choses, cela s'apprend. Dieu peut nous aider à faire des progrès dans ce domaine-là pour lui rendre gloire davantage, jour après jour. Chaque jour, à chaque heure, trouver des choses pour lui rendre gloire. Et on sait que Dieu peut produire le vouloir aussi dans notre cœur. Même si la volonté nous manque, Dieu peut la produire en nous. Et je vous relis donc le verset du départ, sur lequel nous avons commencé, d'un Thessalonicien. Remerciez Dieu, donc rendez grâce, en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse.